Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
13h à la cantine de Radio France.
Mais est-ce qu'on pourrait pas dire une bonne fois pour toutes que la règle universelle de prononciation, c'est 8?
Ah, t'es gonflé, hein? C'est des gestes que tu fais tous les jours à l'antenne.
T'as dit à Juliette comment tu prononçais les WC?
Bah, moi j'ai toujours dit les WC.
Bah non, c'est WC, les WC.
Mais ça sert à quoi d'avoir un W en plus du V si vous faites pas la différence?
Bon, alors, de toute façon, je m'inscris en faux. WC, c'est un anglicisme, c'est water closet. Et on a un mot en français, les cabinets.
Donc on dit WC, bah W en anglais c'est W. Vous dites whisky, vous dites pas un whisky. Je le sais bien, mon père il est prof de français.
Ma mère aussi elle est prof de français.
Bah ouais, mais elle est à la retraite.
Bah le tien aussi, puis ton père, au mieux. Il est prof de belge.
Ouais, bah entre une belge et une stéphanoise, heureusement que je suis là quand même. What's up to represent?
Et allez, vas-y, encore un anglicisme.
En matière d'anglicisme, notre invité, il est vernis. Elliot Le Perse, il a des origines britanniques.
Le Perse, c'est anglais.
Non, mais Elliot, oui.
Non, mais attendez, vous éloignez pas du sujet là. On parlait de votre diction approximative.
Non. Et puis d'abord, moi, c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai les dents de devant écartées.
Non, mais crois-moi, les dents écartées, Juliette, c'est pas ton problème majeur.
Mais si, c'est pour ça que j'ai jamais pu devenir une grande tragédienne.
Ah, bah pourtant, moi, je trouve qu'il y a du tragique en toi, Juliette.
Mais tellement. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?
Attends, et moi. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 8000 en arrivant au port. Bah quoi, Juliette, t'as du brocoli coincé entre les dents. Et voilà pourquoi on mange froid tous les jours à la cantine. Bonjour la France Inter. Vous écoutez la start-up de la future BBC à la française, dont voici la devise du jour. Le cash flow ne fait pas le bonheur, mais il upgrade le process. Voici le sommaire du PowerPoint qu'on va dérouler jusqu'à 18h. 16 jeunes, dont Greta Thunberg, ont annoncé leur intention de porter plainte contre plusieurs pays pollueurs pour non-respect des droits de l'enfant, car la convention prévoit de protéger leur santé. Ces jeunes attaquent notamment la France, donc Macron.
Détachez-le, on va le juger.
Alors on va lui crever les yeux avec une aiguille et les coudes, les paupières avec du fil.
Non, lâchez-lui son froid.
Engagez-vous, qu'il disait. Et ça a fonctionné du feu de Dieu. De plus en plus de militants sur tous les terrains. Sauf que voilà, les héros sont fatigués, très fatigués même. Et si vous vous demandez pourquoi, nous avons la réponse.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
À l'école, les enfants sont souvent empêchés d'aller aux toilettes à cause de l'état des WC. Voilà. Les gamins préfèrent se retenir plutôt que de choper la ch'touille. L'état de nos latrines n'indique pas que nous vivons dans la 6e puissance mondiale. Et si on organisait un grand Grenelle des toilettes, par exemple?
Oui, mais j'aimerais bien aller aux toilettes avant.
Mais tu feras au lycée, hein? J'ai autre chose à faire que de m'occuper de vos histoires de chiottes.
Juliette Arnaud, qui a répondu à l'appel de la blague aujourd'hui?
Trois belles personnes, comme dirait Marion Cotillard. On va commencer avec celui qui est le combo entre la mémoire vivante du cinéma et l'ardent défenseur de la blague à papa, c'est Thomas Croisière.
Bonjour Juliette.
Ah non, c'est Rambo.
Oui, c'est Rambo. À tout à l'heure.
Ensuite,
c'est Laurent Gérard, non, qui imite Rambo. Oui, pardon.
Ensuite, nous aurons celui qui est Tic et Tac mixé avec la statue du commandeur. Du coup, t'es en confiance, alors qu'en vrai, tu devrais avoir les jambes en pâté de foie. C'est Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Et ben, je vais vous parler d'Éric Zemmour, tiens. Il lance une nouvelle émission sur CNews et je vais chercher des chroniqueurs.
Bon, moi, je suis juif et j'adore les musulmans.
Ah non, mauvais profil. Suivant, s'il vous plaît.
Et enfin, celui qui, s'il a avait été la babysitter de Greta Thunberg, c'est sûr, elle serait bien sage en train de réviser son BEPC.
Pas faux.
Pablo Mira.
Allez, salut Juju, bonjour à tout le monde. Et puis, Guillaume, mon ennemi, j'aurais qu'en vrai j'aime bien, c'est mon copain, tout ça c'est de la comédie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Greta Thunberg, je vous dirai pourquoi elle m'effraie. J'aurai des tas d'arguments, et le plus fort, c'est qu'ils seront tous sur son visage. A tout à l'heure.
Merci. Et voici celui que nous avons élu délégué de classe pour l'émission. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Je suis Elliot Le Perse.
Mais oui,
mais c'est pas vrai.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Elliot Le Perse.
Merci.
Alors vous êtes, on peut dire, militant et activiste écologiste, féministe, activiste beaucoup sur le web. Vous vous qualifiez aussi de designer politique.
Ouais.
C'est ça?
Bah à la base, moi j'ai fait une école d'art, hein, donc à la base j'ai plutôt appris à faire des affiches et c'est des chaises. Et maintenant on fait plutôt de la politique, on essaie de changer le monde, quoi.
Pendant la présidentielle de 2012, vous étiez en charge de la campagne numérique d'Eva Joly. Donc l'idée des lunettes rouges en logo puis vertes, c'est notamment vous. Vous avez créé à un moment le site loi-de-travail.lol pour démonter point par point la loi M. Khomri. Donc vous êtes inventif, créatif. Vous avez créé notamment le Hanounator, dispositif web pour signaler les dérapages d'Hanouna au CSA. Ouais. L'Amazon Killer, c'est pour réussir à contourner Amazon et trouver le bouquin que vous cherchez dans une librairie plutôt indépendante. Et aussi Matcholand.fr pour dénoncer les pubs et les propos publics sexistes. Elliot Lepers, l'une de vos dernières innovations, avant de parler de l'ONG Le Mouvement, dont vous êtes cofondateur et directeur, votre dernière innovation, l'application mobile 90 jours ouais. pour l'écologie. Ouais. Expliquez-nous comment ça marche pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui peuvent l'installer pendant qu'on parle.
90 jours, c'est pour les nuls en écologie. Ça vous aide à faire le premier pas. Ça vous aide, ça vous accompagne dans les premiers jours de cette transition pour vous trouver d'abord un premier défi sur mesure, un truc que vous allez réussir à faire. Parce que souvent, bah, l'écologie, on a l'impression qu'on va pas y arriver. Mm-hmm. C'est un petit compagnon sympa que vous allez avoir envie d'utiliser avant d'aller faire la révolution, parce que c'est l'étape d'après, faire pipi sous la douche.
C'est un peu comme la cigarette électronique.
C'est exactement ça.
Au bout de 90 jours, on brûle un patron.
Il y a des différents profils.
Il y a des défis qui sont tout à fait accessibles. Ouais. Ils sont des gestes du quotidien, comme utiliser du vinaigre comme produit de nettoyage. Ouais. Un autre défi, ça peut être de ne pas utiliser l'ascenseur, prendre les escaliers.
Ouais.
Ou mettre une bouteille d'eau. Alors moi, j'ai fait ça quand j'étais gamine. Ouais. Parce que la Fondation Nicolas Hulot avait édité un petit bouquin de gestes simples à faire. Et je pense que j'avais 16 ans et j'ai mis une bouteille d'eau. Pleine, mais d'un demi-litre hein, dans la chasse d'eau, ce qui permet de réduire le débit.
Il y a moins d'eau qu'à utiliser à chaque chasse.
Voilà. Et j'ai coincé le mécanisme de la chasse d'eau. Mon père, qui nous écoute sans doute, s'en souvient encore. Mais quand c'est bien fait, et vous l'expliquez, quand c'est bien fait, c'est très efficace.
Mais vous avez sauvé des dauphins en faisant ça, et c'est ça l'essentiel.
Ensuite, parlons, touchons un mot aussi de votre ONG, le mouvement. Vous êtes dans, on peut dire, le cyberactivisme. On l'a vu avec les exemples qu'on a cités. Mais on peut s'imaginer que le cyberactivisme, c'est signer une pétition, c'est juste un clic et puis on fait rien d'autre. Et vous avez fondé donc le mouvement, c'est un mouvement international qui regroupe qui et pourquoi, et est-ce que c'est indispensable de prolonger l'Internet en fait?
Alors en fait, effectivement, on est le groupe français d'un réseau qui est présent dans 19 pays, et notamment la plus vieille ONG qui faisait des campagnes en ligne, qui s'appelle Move On aux États-Unis, qui a été créée en 98, qui est un peu notre inspiratrice. Et nous, on est un des derniers arrivés. Le but, c'est effectivement de se saisir de moments qui émergent dans l'actualité pour voir comment est-ce qu'on arrive à faire campagne ensemble, à mobiliser les gens qui sont d'accord pour soit changer la loi, soit influer sur l'opinion publique pour faire en sorte qu'il y ait moins de racisme, qu'il y ait plus d'écologie, qu'il y ait moins de machos, et qu'il y ait plus de justice sociale. Et donc, on a monté ça il y a un an et demi. Aujourd'hui, on a à peu près 150 000 membres qu'on sollicite quand il y a une opportunité. Depuis un an, on est beaucoup sur les questions d'extrême droite et de groupes de haine qui pullulent, notamment Génération Identitaire, dont on a fait fermer les comptes de paiement en ligne en faisant pression sur les plateformes comme Stripe, comme PayPal, comme des banques, donc pour les empêcher de recevoir des dons en ligne. Et puis, on est beaucoup sur l'organisation des démarches pour le climat depuis un an et des grosses campagnes de mobilisation avec plein d'influenceurs dont on a beaucoup parlé depuis un an pour contribuer à ce mouvement.
Donc tous ces combats sont complémentaires parce que vous êtes à la fois dans l'antiracisme, l'antisexisme, l'écologie. Est-ce que tout ça, ce sont des combats qui sont complémentaires, qu'on peut grouper ?
C'est un peu une des particularités par rapport à d'autres ONG de ce qu'on essaie de porter, c'est de dire qu'effectivement ces sujets-là ils se croisent. Souvent en France les ONG elles sont sur une spécialité. Vous avez Greenpeace sur l'écologie et puis voilà. Nous ce qu'on essaie de faire c'est d'expliquer qu'on a un projet de société cohérent, progressiste, de gauche, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas qui effectivement se recoupe. Et c'est vrai que souvent on a, par exemple dans les marches climat vous avez beaucoup de blancs. C'est pas un combat qui a encore intégré l'antiracisme et intégré les collectifs. Donc on essaie de créer des passerelles et de montrer qu'on a souvent les mêmes adversaires et que c'est souvent les mêmes problèmes qu'on affronte.
Elliot Lepers, Juliette a une question pour vous aussi.
Quand on lit vos interviews, on se rend compte, et puis tout ce que vous avez inventé, on se rend compte que vous êtes animé par un désir de pédagogie, ce qui n'est pas évident. On rappelle que vous êtes né en 92, ça fait que vous n'êtes pas un bébé, mais vous êtes...
27 ans, vous avez.
27 ans, c'est vraiment très très jeune.
Sale jeune.
Pas du tout, pour être animé autant.
Qu'est-ce que vous avez les adultes? Personne contre les jeunes.
Retard par pitié. Est-ce que vous avez quand même eu un moment d'innocence, un moment où vous n'avez pas été délégué de classe, un moment où vous avez juste mangé vos crottes de nez comme nous?
Est-ce que... Ça non, mais d'autres trucs,
certains
oui.
Certains continuent. Hein.
Il y a eu une période d'innocence chez vous, Elliot Lepers?
Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai fait ma première lettre ouverte, j'avais 6 ans sur la plage en vacances.
Et donc, non, il y a
peut-être
pas
à 5 ans, peut-être.
Ouais,
à...
peut-être.
Non,
mais
même
ça,
pas.
Ça, c'est pas forcément incompatible. Moi, ça m'a toujours intéressé de voir ce qui allait pas autour de moi et de voir comment est-ce qu'on fait en sorte que ça va mieux. Après, on peut s'amuser quand même au quotidien.
Cette première lettre ouverte, vous aviez 6 ans, c'était à Antibes, c'est ça?
Pour
nettoyer la plage.
Chez mes grands-parents.
Vous aviez ramassé les mégots sur la plage, vous avez écrit au maire d'Antibes qui vous a répondu quoi?
Qui m'a répondu, ok, c'est vrai, on va s'en occuper. Il m'a invité le dimanche à 5h du mat pour nettoyer la plage. J'étais monté sur le tracteur, j'étais très fier.
Le petit Elliot Lepers, déjà, à l'époque. Cofondateur, directeur du mouvement, de Le Mouvement, c'est l'ONG.
C'est
donc.
Compliqué, ouais.
Vous avez un site internet, hein, getelliot.com, getelliot.com. Mmh. Tenez, chers auditeurs, allez voir, pendant qu'on écoute Aretha Franklin, par exemple, ce serait pas mal. Chain of Fools, vous écoutez par Jupiter. Chain, 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 chain. Écoutez France Inter par Jupiter en compagnie d'Eliott Lepers, le jeune fondateur, directeur de l'ONG Le Mouvement, le créateur de l'appli 90 jours pour les apprentis écologistes, comme dirait Brune Poirson, peut-être les écologistes complexés, les écologistes timides qui sont en transition.
Il y a une intention qui est là.
Soyez décomplexés.
Et pour entourer Eliott Lepers, Juliette Arnaud,
Thomas Croisière, Guillaume Meurice, Pablo Mira, ça fait beaucoup d'hommes, non?
Et l'information, à quel sexe?
En vrai, pas assez.
Ça ne sert à rien de tirer sur une locomotive. La France aujourd'hui est une locomotive contre le réchauffement climatique.
Le journal de presque 17h17.
Un charbon de bois tout neuf, avec ça, sur le 70.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera de Greta Thunberg.
Oui, parce qu'on n'en parle pas assez en ce moment, je trouve.
On parlera aussi de Greta Thunberg.
Oui, parce que j'ai remarqué que ça apaisait bien les gens.
Et il sera enfin question de Greta Thunberg.
De qui?
Greta Thunberg.
Ah, Greta Thunberg. Vous avez un accent un peu pourri, c'est pas. Et on commence ce journal avec
Greta Thunberg.
Exact.
Ouais.
Pas mal. Greta Thunberg à qui Brune Poirson disait merci Greta, vous nous apportez l'espoir, ne lâchez rien, c'est à l'Assemblée nationale.
Mm-hmm. Ouais. Brune Poirson qui hier matin au micro de France Inter déplorait l'attitude de Greta Thunberg. Je ne crois pas qu'on puisse mobiliser avec du désespoir.
Ouais, je vous rappelle que c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Hashtag énergie renouvelable. Et Brune Poirson a même ajouté.
Mais quelles sont les solutions qu'elle met sur la table? Je ne sais pas. Et je ne crois pas.
Et je ne crois pas, évidemment.
Terrible, ces jeunes qui font la grève et qui feraient mieux d'aller à l'école.
Et ce matin, c'était le député européen Rassemblement National, Jordan Bardella, qui était l'invité de Radio Classique pour parler de...
Greta Thunberg.
Exact, exact, c'est bien. Charline et Jordan, il a dit ça.
Je pense que sa place est sur les bancs de l'école.
Elle a porté la plainte.
Et ses parents sont en train d'en faire une psychopathe.
Quant aux parents de Jordan Bardella, ils en ont fait un xénophobe.
Et oui, on enchaîne avec Christophe Barbier qui a parlé...
De Greta Thunberg.
Exact, il a répondu à la question. Greta Thunberg en fait-elle trop en disant oui.
Christophe Barbier qui demande si quelqu'un en fait trop.
Oui.
Ok, on enchaîne,
c'est mieux. Alors on passe à Vincent Herouet, chef du service étranger de LCI, qui a parlé quant à lui de...
Greta Thunberg.
Non, peut-être vous êtes balèze. Comment vous savez
ça? Je sais pas, c'est l'instinct.
Ah, c'est l'instinct, ok. Alors Vincent, il a dit ça.
Vous savez, à l'ONU, il n'y a que les tyrans qui se font remarquer. Khrouchtchev avec sa chaussure, Castro avec son treillis, Kadhafi avec ses rêves et son burnous. Et là, on a un tyran de 16 ans...
Khrouchtchev, Castro, Kadhafi, Greta Thunberg, la logique, hein, bien sûr, Bardella, Barbier, Herouet, Himmler, bien évidemment, dans la même logique.
Politique toujours.
Oui, alors on va parler de celle qui crispe pas mal de gens en ce moment.
Oui, ben ça va, Greta Thunberg, on a compris.
Et non, Marlène Schiappa.
Oui, non, c'est vrai, elle s'est grimée en homme dans une campagne pour montrer les inégalités dans les start-up.
Et oui, elle a pris modèle sur Christophe Castaner, qui depuis le début de ses fonctions au ministère de l'Intérieur se déguise en mafieux pour lutter contre les trafics.
Trafic toujours, interrogé par les lecteurs du Parisien, Gad Elmaleh a déclaré, je cite, « Mon one-man show, ce sera du 100% GAD ».
Et ça ne fait aucun doute. Personne n'a jamais remis en cause le fait que c'est GAD en personne. C'est lui-même qui traduit les blagues des humoristes américains.
Une info au spectacle à présent.
Oui, accusé de harcèlement sexuel, Placido Domingo renonce à se produire à New York dans une production de Macbeth.
Oui, et de son côté, Patrick Bruel continue son spectacle Macbeth dans tous les salons de massage de la région PACA.
Bravo Charline, je vois que vous avez été à l'école Visorec. C'est bien, on enchaîne.
Le chef Marc Vera attaque le guide Michelin en justice pour la suppression de sa 3e étoile.
Et en même temps, il lui reste 2 étoiles et c'est toujours 2 de plus que l'équipe de football de Belgique.
Ah non, c'est nul.
Vous préférez que je vous donne l'avis de Michel Onfray sur Greta Thunberg?
Non, c'est bon, on arrête.
Pas
de menace.
Non, mais oh.
Merci Guillaume Meurice. Il est 17h25 à Antibes où le petit Elliot Lepers nettoyait le rivage. Là où habitent ses grands-parents. Alors, on va aborder ce premier sujet avec vous, Elliot Lepers, avant d'écouter Thomas Croisière et ensuite Pablo Mira. Greta Thunberg et 15 enfants et 15 autres enfants et adolescents de 8 à 17 ans ont annoncé leur intention de porter plainte contre les pays les plus pollueurs, dont la France, car il s'agit d'un non-respect des droits de l'enfant qui prévoit donc de protéger leur santé. Alors l'Inde, la Chine et les États-Unis n'ayant pas ratifié la Convention des droits de l'enfant, y reste peinard. Quand on écoute la jeunesse, elle a beaucoup de reproches à faire à ses aînés. Heureusement que tout ça se passe dans le calme.
Ils sont un peu mous du cul, ces jeunes d'aujourd'hui, non? Non mais ils sont sympathiques, mais ils sont pas comme nous, hein. Bon, à notre époque, c'était vraiment... Allez, à vous de jouer, là! Qu'est-ce que tu veux, nous? On est vieux, hein, puis on va surtout pas lâcher nos super postes, super bien payés, super je vous encule, hein, puis on va continuer à construire des duty-free, puis des centres-villes de merde, qu'on touche la même gueule, pour rembourser notre petite maison à l'île de Ré, hein, camarade? Ce qui compte, c'est de rester debout, le poing levé, hein, puis rotada, là, hein! Comme à l'époque, vous me faites penser à Michael Jackson, là! Michael Jackson! Vous nous avez bien bouffé, hein? C'était bon manger ses enfants? C'était bon? Oui, c'est ça. Et ben, demandez-vous pourquoi la figure centrale de notre génération, c'est le pédophile!
C'est Judith Davis dans le film qu'elle a réalisé, Tout ce qu'il me reste de la révolution. Elliot Lepers, donc on voit ces 16 enfants et adolescents qui entendent porter plainte et s'appuyer sur une faille dans la Convention des droits de l'enfance, pour la protection de la santé, donc surtout la faille de la catastrophe climatique. Le premier levier, quand on est militant, activiste, est-ce que le premier levier, il est juridique? Est-ce que finalement, les juristes sont nos meilleurs activistes, nos meilleurs alliés?
Je pense pas que c'est le premier, mais je pense que c'est en train de devenir de plus en plus un levier important parce qu'on a essayé les autres. Et on a essayé notamment de la honte et la vergogne et le bon sens. Et on a essayé de mettre nos responsables devant l'évidence. Ça fait 40 ans qu'on a des scientifiques qui publient des rapports, qu'il y a un consensus de plus de 95% des responsables et des scientifiques là-dessus et que pourtant ça n'agit pas. Donc à la fin, on utilise d'autres moyens. Et un des moyens qui est de plus en plus utilisé, c'est la justice parce que en l'occurrence, on c'est inédit. Et puis ici, il y a une décision de justice. Derrière, ça permet d'obliger nos dirigeants à agir. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de les obliger. Donc l'affaire du siècle en France.
Faut que ce soit contraignant parce que souvent ce qu'on fait est pas forcément contraignant. La COP c'était pas contraignant.
Ouais,
etc.
C'est très souvent en fait dans la politique on n'a pas de moyens d'obliger les responsables quoi. En fait on a
des tasers, aucun... des genres d'objets électriques.
Ça c'est bien.
Pour en état fasciste, on a des moyens. En état fasciste on en a.
Mais les dirigeants je suis même pas sûr en fait, c'est qu'ils sont élus puis après ils sont un peu tranquilles, ils essaient de faire leur maximum. Ce qui est assez affligeant c'est de se dire qu'on en est venu à un moment où c'est à nous, les citoyens, les citoyennes, des gamins de 16 ans, d'aller chercher des moyens d'obliger des responsables qui sont élus de juste faire ce que les scientifiques disent depuis 40 ans.
Ça veut dire que la jeunesse, elle est davantage crédibilisée maintenant ? Parce que c'est une question que Juliette vous posera aussi. Les jeunes, pas toujours écoutés. Puis là, ils arrivent dans les grandes instances, les assemblées, l'ONU, ils entendent porter plainte.
On voit que Greta, elle est super crédibilisée par tout le monde. en tout cas, la jeunesse, ça fait peur parce que la jeunesse qui se mobilise, c'est à la fois c'est des gens qui n'ont rien à perdre et en même temps qui n'ont rien à gagner. Mm-hmm. Donc on peut pas les attaquer, on peut pas leur reprocher d'aller jouer un agenda personnel et en même temps au pire ils vont pas en cours quoi, donc ils ont pas de salaire qui tombe pas à la fin du mois, donc c'est extrêmement volatile quoi. Donc effectivement quand les jeunes rentrent dans la bataille, ça fait peur à nos dirigeants. Tant mieux. Et puis oui, je pense qu'il y a un truc où et notamment Greta mais toutes les personnes qui lui ont emboîté le pas et toutes les jeunes leaders qui ont suivi et qui ont pris sa suite dans plein de pays du monde et tous les jeunes qui manifestent. Oui, il y a quelque chose de super fort quoi dans l'image qui porte parce que c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur une parole construite, argumentée, scientifique. Ils proposent pas de solution comme le dit Brune Poirson, mais c'est pas leur boulot. Leur boulot c'est juste de dire il y a des scientifiques qui nous disent que dans 10 ans on va rencontrer un mur. Si vous voulez on ralentit, sinon qu'est-ce qu'on fait quoi.
Juliette.
Oui, il y a un élément de langage qui me semble manquer, qui n'est pas assez utilisé par les militants quand on reproche à, par exemple, Greta Thunberg d'être trop jeune, c'est que en même temps, en France, on parle très souvent de Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin, on oublie de rappeler que Daniel Cordier, quand il part à Londres, il a 16 ans. Et qu'à l'époque, ce que les collabos reprochaient aux résistants, qu'ils soient communistes ou gaullistes, c'était d'être des jeunes. Et de pas savoir.
Okay.
Et donc ça c'est quand même un élément de langage historique.
Et de pas être des nazis aussi. Et que c'était pas cool.
C'est une chose qui pourrait être profitable, ça. Ça peut pas être un reproche.
D'être jeune.
Non, ça ne peut pas.
Attendez, je suis perdu.
C'est tellement classique, quoi. C'est tellement facile. Et en fait, ça veut aussi dire que il n'y a pas vraiment d'autres arguments en face. Et en plus, elle cumule, quoi, Greta. C'est qu'elle est jeune, c'est une femme.
Ouais.
En plus, elle a certaines conditions. Comment dire ça en fait?
Elle a un syndrome d'Asperger, donc
voilà, c'est ça. Elle a un syndrome qui fait qu'elle se comporte pas exactement comme on a l'habitude de voir quelqu'un se comporter normalement. Et donc, c'est utilisé pour la décrédibiliser. Mais au fond, c'est parce que son discours est effroyablement implacable et qu'on n'a pas d'autres arguments pour dire qu'il faut qu'on aimerait bien qu'elle se taise en fait.
Elliot Lepers, avec nous, Pablo Mira reviendra certainement sur ce sujet.
J'ai d'autres arguments pour la décrédibiliser, mais ils sont tous mauvais, vous allez voir.
On a hâte. Thomas Croisière, parlons un peu cinéma, tiens.
C'était pas naguère que sortit Rambo, mais en 1982, année bénie des dieux qui donnèrent à l'enfant de 8 ans que j'étais E.T., Blade Runner, Dark Crystal, Tron et 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. La sortie du 5e opus de cette pantalogie est l'occasion de Rambo biner ses VHS pour revoir les 4 premiers. Attention, spoiler. Par spoiler, j'entends non seulement qu'il y aura de la rigolade dans cette chronique, mais surtout du spoiler, thème emprunté de l'anglais désignant toute chose qui interrompt le suspense ou dévoile une partie de l'intrigue.
Ce connard m'a emmerdé, colonel.
Mais t'as dû l'emmerder toi aussi, John.
Eux ont versé le premier sang, pas moi.
Écoute, Johnny,
Laisse-moi venir te chercher pour te sortir de là.
Premier sang.
Dans Premier sang, ce n'est pas John Rambo qui le verse le premier sang, mais les flics de la bourgade ironiquement baptisés Hope, Espoir, qui refusent d'accueillir ce vétéran du Vietnam traumatisé par la guerre et dont tous les amis sont morts. Au même titre que Voyage au bout de l'enfer ou Apocalypse Now, Rambo est un film d'auteur politique qui traite de la violence des sociétés qui congédient ceux dont elles n'ont plus besoin. Originellement, Steve McQueen devait jouer le rôle titre et Stallone n'était que le 11e choix des producteurs. Un peu comme Croisière est le 11e choix de par Jupiter, méfiez-vous. Rambo outragé, Rambo brisé, Rambo martyrisé, mais Rambo qui prévient.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Vous avez remarqué, quand on cite Rambo, on ne peut s'empêcher de singer la voix du Sylvestre des Guignols. Imitation non pas de Sylvester Stallone, mais d'Alain Dorval, indissociable doubleur des mythes testostéronés que sont Rocky et Rambo. Je considère d'ailleurs que regarder Rambo autrement qu'en version française est un crime contre ma cinéphilie, ma nostalgie et ma jeunesse. Bilan des opérations, beaucoup de dégâts, mais un seul mort, et encore, pas vraiment de la faute à Rambo. Il a juste lancé un caillou contre un hélicoptère et le gars qui essayait de l'abattre se tenait pas bien accroché, et surtout une tirade de fin bouleversante, d'autant plus bouleversante que ce Frankenstein moderne est plutôt du genre silencieux.
Alors, où est-ce que les missiles sont localisés?
Tout près.
Où ça?
Dans ton cul.
Moment historique. Vous venez d'entendre le premier dans ton cul de l'histoire. Nous sommes dans Rambo 3 en 1988 et il est prononcé par le colonel Trotman, l'homme qui déclare « Dieu n'a pas fait Rambo, c'est moi qui l'ai fait ». Rambo 2 et 3 s'éloignent très clairement de la veine auteur, même s'il y a toujours des auteurs pour écrire les scénarii. Stallone bien sûr, mais aussi James Cameron, futur réalisateur de Titanic et Avatar, qui pose là les jalons du blockbuster bodybuildé réganien et assume la part bestiale de l'Amérique. Les répliques de bonhomme fusent, je vous livre mon top 3 personnel. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Vous êtes fou. Pardon, il faut que je prenne l'accent russe un peu raciste.
Un homme seul contre 10 commandos d'élite, mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Et enfin,
c'est génial.
Pour survivre à une guerre, il faut devenir la guerre.
Réplique culte grâce à laquelle Gizmo, le Mogwai, trouve l'inspiration pour défoncer tous les méchants gremlins, même celui à crête blanche qui lui répondit à l'époque « Gizmo, caca !» La répartie des Gremlins étant moins flamboyante que celle du colonel Trotman. Rambo, alors qu'il a contre lui les Viettes, les Russes et même les Américains, tue 58 personnes dans le 2, dont 46 torse nu. Dans le 3, il supprime 78 ennemis, dont 45 sans chemise. Et nous sommes sur un ratio global d'1,02 mort par minute. Vous voyez, Rambo n'a pas besoin de super pouvoirs ni d'un collant à la con pour être un héros. Il lui faut juste son bandeau et son couteau. Il l'est repris en 2008 pour John Rambo, où du haut de ses 62 ans, il tua 83 ennemis, mais cette fois-ci en gardant sa chemise. Il y a 10 ans, je quittais John, lui me tournant le dos pour rentrer chez lui, mais quel chez lui, et moi agitant la main pour lui dire merci. Merci pour ces 4 films inégaux, mais tellement kiffants. Et après cette émission, rien ne me fera plus plaisir que de le retrouver sur grand écran et en VF pour verser le dernier sang et nous prouver une fois encore qu'entre vivre pour rien ou mourir pour quelque chose, il a fait son choix. Vive Rambo et vive le cinéma!
Vive le cinéma!
Merci Thomas Croisière, merci, qui a vécu cette chronique intensément avec un t-shirt que vous avez retrouvé
dans mes tiroirs. C'était 11 ans et c'était pas ma guerre, Charline.
Et oui, il est tout délavé, ça veut dire que vous l'avez depuis longtemps.
Il n'y a pas les mêmes muscles non plus que John Rambo. Hein.
À revoir évidemment sur notre page Facebook ou sur franceinter.fr, à réécouter en podcast aussi. Ne vous lassez pas, allez-y, sinon Thomas Croisière va dire que c'est un complot. Nous sommes en compagnie d'Eliott Lepers, cofondateur et directeur de l'ONG Le Mouvement. Allez voir aussi son site internet getelliott.com. Tiens, pendant qu'on écoute la musique de l'épée Springfield 61.
Yeah.
Il retire doucement le disque. Florian Beauvallet à la technique. Vous écoutez Par Jupiter, France Inter, Elliot Lepers est en notre compagnie. Vous pouvez aussi aller voir l'appli 90 jours pour les écologistes en transition, en conversion. Ou l'Amazon Killer fonctionne toujours, Elliot?
Ouais, ça fonctionne toujours.
Pour contourner Amazon et acheter vos bouquins chez les libraires plutôt que chez Jeff Bezos. Il a déjà beaucoup de sous, Jeff. 17h38.
Oui, c'est vrai. Quand même.
À cause d'une photo de tub, essentiellement, hein, rappelons-le, et d'un divorce. Maurice.
Oui, et bien nous sommes en France en 2019 et ça y est, une chaîne de télévision a enfin décidé de confier une émission à Éric Zemmour. Ça y est, ouf, il vient d'être définitivement condamné pour incitation à la haine contre les musulmans et CNews s'est dit... Bah putain, c'est pile poil le profil qu'on cherche en fait. Parfait. Et Zemmour a répondu, bah attendez, parce que je dis aussi de la merde sur les femmes et les homosexuels. Sérieux? Eh ben on vous augmente. Allez, on double votre salaire. Allez hop, asseyez-vous, prenez un café et en avant... En avant Nuremberg. Et ça fait un bien fou dans notre société d'avoir des nouvelles têtes comme ça, des gens qui inventent de nouvelles façons d'haïr les autres, parce que aimer c'est un peu le truc facile, je sais pas, on s'aime tous autour de la douille Pablo,
c'est
facile de l'aimer Pablo, regardez-moi ouais, cette petite boule de poils, c'est la mignonnerie, voilà, c'est un mélange de douceur et d'argent de Bouygues qui récupère sur TMC, mais Éric Zemmour nous apprend à mieux nous détester, ça c'est important pour faire société comme on dit. Alors le problème c'est que pour l'instant il a pas de chroniqueur, hein, c'est une émission qui se monte, et ben c'est pas grave, j'ai voulu lui filer un petit coup de main ce matin en faisant un petit casting sauvage comme ça dans les rues. Alors, par exemple, est-ce que cette dame, elle aime bien Éric Zemmour?
Moi, je l'aime bien. J'aime bien les gens qui mettent les choses en question.
Ce qui fait polémique, c'est qu'il vient d'être condamné pour incitation à la haine contre les musulmans.
Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? On n'est pas tous d'accord, hein, on n'a pas tous les mêmes opinions, et ben, on verra à la suite. Moi, je pense qu'il faut un peu plus de tolérance, oui, aujourd'hui.
Il faut tolérer l'intolérance, alors?
Ouais, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui.
Ben oui, voilà. Ben oui, parce qu'on est dans une époque terrible, on est en pleine intolérance aux phobies. Hein. On n'accepte pas la non-acceptation de l'autre. Quand quelqu'un nous crache dessus, on prend ça tout de suite comme une injure, comme un scandale, et non comme une invitation au partage. On la garde, hein? On l'embauche la dame? Allez, Edune, elle est prête. Alors, monsieur, est-ce qu'il aime bien Zemmour?
Oh, ses réactions vis-à-vis du politically correct, c'est assez sain.
Oui, il lutte contre la bien-pensance, c'est ça?
Voilà.
Qu'est-ce que c'est pour vous, la bien-pensance?
C'est du n'importe quoi.
La bien-pensance, c'est
oui,
n'importe quoi?
Oui, c'est du n'importe quoi.
Et est-ce qu'il faudrait mieux être mal-pensant?
Non, ça, c'est pas un bon raisonnement, ça.
Ah oui, c'est compliqué, alors?
C'est assez compliqué. Ouais,
c'est là qu'on voit que moi, clairement, j'ai pas le niveau pour bosser sur CNews. Moi, je suis vraiment resté cantonné à la bien-pensance. Moi, j'ai rien contre les homos, les noirs ou les femmes. Je suis vraiment le nul à chier. Je pourrais être Miss France, mais je trouve que c'est un concours sexiste. Moi, je suis vraiment à chier, de chez à chier. Je suis nul. Alors, ce monsieur, j'ai envie de le garder aussi. J'en ai peut-être trouvé un autre qui aime bien CNews.
J'en ai marre qu'on me dicte ce que je dois penser. Et le système médiatique, c'est un système de haut-parleurs. C'est décidé, je ne sais pas par qui, mais ils sont tous raides comme la justice à reproduire exactement, au mot le mot, ce que quelqu'un leur souffle de dire.
Et tous les médias, vous pensez?
Tous les médias, pareil.
Mais CNews, c'est un média.
Oui, mais moi j'aime bien CNews.
Oui, là c'est pas pareil. Oui, oui, CNews et Valeurs Actuelles et Le Point, Le Figaro, TF1, etc., etc. Mais c'est vrai que tous les médias qui disent la même chose disent la même chose. C'est terrible. Encore un chroniqueur pour Eric. Et attendez, en plus, qu'est-ce qu'il pense de la haine contre les musulmans?
C'est de la rigolade. Ils sont assez grands pour se défendre. Et croyez-moi, quand on n'est pas d'accord avec eux, ils vous disent rapidement si on peut aller plus loin ou pas.
Non. Avec eux, les musulmans?
Oui.
C'est-à-dire, alors, ils...
Mais ils se victimisent, et parce qu'ils sont victimes, il faut qu'on plie. C'est pas normal, ça.
Mais là, est-ce qu'ils ne sont pas victimes des propos d'Éric Zemmour?
Bah non.
Et pourtant, il a été condamné pour ça.
Mais alors?
Oui, non, mais c'est vrai, on s'en tape. Pardon, excusez-moi. Non, on s'en tape, je suis bien d'accord. Attendez, c'est un entretien pour CNews, hein. C'est pas pour Médecins Sans Frontières. Donc c'est très bien, on le garde. Hein?
Oh oui. Bon,
allez, on le garde. Mais est-ce qu'on peut pas encore trouver mieux? Et c'est là que je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais Edith! Évidemment, Edith! La super esthéticienne du 16e, celle qui épile le maillot de Dominique Seux. Et ben, ça tombe bien. Edith, vous le savez, Edith, elle adore ses news. Elle regarde Pascal Praud.
Il y a des gens très intelligents, il a vu beaucoup de gens bien, hein, sur le plateau. Et lui, il siffle, il a pris Gilles Prenne un sifflet pour leur dire, vous arrêtez parce que les gens n'entendent rien du tout. Puis alors celle que j'aime pas, tu sais, la gaucharde, là, ça doit être une communiste, celle-là c'est la lesbienne.
Qui ça?
Les cheveux courts, une brune moche.
Allez, embauchée direct. Non mais c'est vrai, il y a peut-être un risque que Zemmour paraisse un peu tiède, en fait, à côté d'Edith. Alors j'ai quand même voulu la tester sur des sujets de fond, par hasard, les migrants.
Ça n'arrête pas. Hier, ils ont dit maintenant, on va entretenir les gosses des femmes qui françaises qui ont fait le GI.
Qui ont fait le
GI, comme on dit, qui ont été des terroristes.
Le djihad.
Oui, djihad. Bon,
parce que le GI, ça n'a rien à voir.
Non, djihad.
Oui, alors on va pas chipoter non plus. On n'est pas obligé d'être précis. Hein. Vous dites bien WC ou WC. Voilà, on n'est pas précis. Alors sur CNews, c'est pas éliminatoire. Ce qu'il faut, c'est parler franc. Et ça, Edith, elle a un master.
Moi, il y a des gens qui viennent me parler, monsieur que je connais pas. Il m'a dit, au moins vous parlez franc. Il faudrait plus de gens comme vous, madame. Il faudrait des gens qui disent, comme Zemmour, tout haut ce que les Français pensent tout bas. Moi, j'ai des clientes, encore, elle m'a encore dit, une qui est milliardaire, là, qui est bourrée de fric, elle va foutre le camp. Elle m'a dit, moi, je vais partir soit au Maroc, ils sont tous à Marrakech.
Mais est-ce que ça veut dire que tous les Français ont la haine contre les musulmans?
Ah non, pas du tout. Moi, j'aime bien les Marocains. Moi, j'ai des copines musulmanes, mais elles sont très ouvertes. Elles ont des copines juives. Mais
est-ce que vous êtes ouverte, Edith?
Ouverte, ça dépend. Hein. Moi, j'ai fait des progrès. Hein.
Oui, alors bon, ça se voit pas immédiatement comme ça. Bon, mais c'est bien qu'elle reste comme ça pour CNews. C'est parfait. Ben, j'espère qu'Eric nous écoute. Là, je suis à sa dispo pour lui présenter sa nouvelle équipe. Merci à lui. Merci Bolloré pour ce futur Fox News à la française. Et si ça vous donne envie de gerber, ben, faites-le directement sur CNews. Ils ont l'habitude.
Merci Guillaume Meurice. Vous jouez le 4 octobre à Caen au Cargo avec votre groupe Les Disruptives.
C'est vrai.
C'est le rock en marche. Allez écouter le riff macroniste de Guillaume et de son groupe. 17h44 sur France Inter avec Elliot Lepers, l'ONG Le Mouvement. Il y a aussi le site internet getelliot.com. Vous savez, il a lancé l'Amazon Killer, l'appli 90 jours, Matcholand ou 343 connards. Vous inventez plein de trucs, Elliot. Et Juliette a un autre sujet pour vous, justement.
Militer souvent tout à fait bénévolement pour une cause, c'est classe. Seulement, voilà, manque de soutien, manque de reconnaissance, manque de résultats et une conscience accrue des choses qui rongent de l'intérieur, c'est ce qui conduit, par exemple, la créatrice du site Paye ta Schneck à rendre son tablier. On a les écoutes de ce qui s'est vraiment passé.
Mais avant, ma vie, c'était de la merde, vous entendez, hein ? Recevoir le chef de style, le roi de mie, toujours poli, toujours bien mise, le symbole de la nation bretonne. Il en faut bien des compensations pour encaisser toutes ces conneries, hein. Toujours s'occuper de quelque chose et surtout de vous, parce que vous avez des responsabilités. Et qui s'occupe de moi pendant ce temps? Eh ben oui, maintenant qu'il n'y a plus de pâte d'amande, je tourne en rond, je suis sur les nerfs.
Voilà, donc grâce à un article du Figaro, on a appris ce que c'était que le burn-out militant. Alors forcément,
qu'on a entendu dans Kaamelott.
Voilà,
par exemple.
Ah oui. Oh là là, Kaamelott. En plus, c'est mon actrice préférée, c'est Anne Giroir. Voilà.
Le Figaro parle de burn-out militant, donc c'est marrant. Ouais.
Et comme on vous a sous la main, là, je vais
c'est
en profiter.
Ma tête qui vous fait dire ça,
non, pas du tout. Pas du tout. Hein, non, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous l'avez déjà frôlé, le burn-out? Est-ce que vous dormez trop peu? Est-ce que vous avez trop de dossiers ouverts sur votre tableau de bord intérieur? D'autant que vous faites tout ça sans coca et sans avion.
ça nous arrive souvent, hein, bien sûr, à tout le monde. Effectivement, Anaïs Bourdel de Paye ta Schneck, c'était extrêmement, extrêmement violent de lire ce qu'elle a raconté, ce témoignage, de voir qu'effectivement, elle se sentait plus en mesure de recueillir la parole de victime, en fait, parce que ça l'atteint totalement. Et c'est vrai que c'est un paradoxe parce qu'on est dedans, donc on est particulièrement touché par tout ce qu'on vit. En même temps, c'est des métiers où on est où on travaille beaucoup trop, où effectivement on est tout le temps paupérisé dans notre action, c'est-à-dire qu'on a tout le temps joué avec des bouts de ficelle, on n'est jamais assez nombreux. Et puis en face, on a Macron, donc c'est extrêmement fatigant.
Ça veut dire quoi extrêmement... Ça vous décourage d'avoir Macron en face?
Oh avec Macron, c'est particulièrement difficile de faire notre boulot, ouais, parce que
quand on est association, qui... etc. Vous voulez dire?
Alors, oui, on pourrait reparler de la fiscalité et de la suppression de l'ISF qui a enlevé 300 millions d'euros de dons aux ONG. Ça, c'est encore un détail. Mais c'est surtout qu'on a en face un gouvernement qui nous ment en permanence. Moi, je me souviens, par exemple, sur le budget du ministère des Droits des Femmes, où on avait Marlène Schiappa qui, pendant tout un été, mentait dans tous les médias face à Caroline De Haas. On avait fait un compte de l'augmentation qui était un mensonge du budget du ministère des Droits des Femmes. On l'avait prouvé. Et en face, on avait Marlène Schiappa qui passait tout l'été à mentir. Et derrière, quand Caroline De Haas a été harcelée, a été on se souvient de Besnéard qui avait dit qu'il voulait la claquer, et ben derrière il n'y avait pas eu de soutien non plus, il y avait même plutôt une forme d'hostilité de la part du gouvernement. Donc ça, c'est des choses...
Ça joue dans le burn-out militant aussi, c'est ce qu'explique l'article, c'est le manque de soutien aussi psychologique et parfois la violence des attaques.
Oui, parce qu'elle le dit, Anaïs Bourdet, elle dit qu'elle est épuisée et elle est également terrorisée. Il y a un autre truc dans l'article, j'ai appris une expression, le traumatisme vicariant, qui d'habitude est pour le personnel soignant. Et là, ça marche aussi en fait pour les militants. Et un mot qui est tout neuf, qui s'appelle la solastalgie. Ouais. Est-ce que vous en êtes atteint?
Ça veut dire quoi?
C'est au niveau de la gorge, non?
C'est joli, hein. Et c'est une nouvelle forme de détresse profonde qui est, dès qu'on s'intéresse à l'écologie, qu'on commence à militer en écologie, on commence à être, à choper une angoisse très très forte qui ressemble à une chose qui relève de la dépression.
Ouais, bah, a fortiori quand on est sur des sujets comme ça où on se demande si tout ce qu'on fait va effectivement avoir une influence, quoi, et est-ce qu'on va s'en sortir. Donc moi ça va honnêtement, mais autour de moi je vois beaucoup de gens qui le vivent super mal. Après je pense aussi que moi ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu-là, donc j'ai appris à relativiser et à comprendre que j'étais pas responsable du résultat et qu'on fait ce qu'on peut et qu'on essaie d'être cohérent avec ce qu'on a envie de porter, d'être honnête avec ce qui nous anime, quoi. Après il faut faire le deuil aussi de ce qu'on pourra jamais réussir à faire, et puis se prendre soin de soi. Et voilà, je repense à la journée de samedi où on était dans la rue en tête de cortège. Tout d'un coup on voit que en 5 minutes la situation dégénère, on voit des gaz lacrymo qui nous sont envoyés dessus par les flics. Effectivement à ce moment-là c'est des moments où ça nous atteint fortement, quoi.
Prenez soin de vous, activistes et militants, parce qu'on a besoin de vous. 17h49 sur France Inter, l'heure de donner la parole à l'auteur du livre Greta Thunberg, j'aurais aimé que tu te manges un iceberg. C'est vous, Pablo Mira. Pablo, mon petit ange trapu, aujourd'hui vous avez décidé de partir en guerre contre Greta Thunberg.
Ouais, ma louloute. Alors pour préparer cette émission, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais dire sur elle de plus méchant que tout ce qui a déjà été dit par tous les vieux éditorialistes réac. Réponse: rien, impossible évidemment, mais je vais le faire avec plus de charisme, nuance. Donc là, je vous le dis, il y en a marre de cette Greta machin chose, là, la trisotiste suédoise Greta Mongolberg. Non mais sérieux, pour qui elle se prend à donner des leçons de morale au monde entier, alors qu'elle ne fait rien en termes d'action? Pour qui se prend-elle, hein? Une chroniqueuse de France Inter, sans doute. En plus, écoutez bien, elle n'a aucune légitimité pour parler du climat. A-t-elle un diplôme en climatologie? Non. A-t-elle des testicules? Non plus. Zéro légitimité. Dis-moi, pardon, hein, mais j'ai pas attendu Greta Mosberg, là, le robot d'Helsinki, hein, pour faire attention à l'environnement. Moi, par exemple, quand je dois prendre l'avion, je réserve via Thomas Cook. Ben, comme ça, je prends pas l'avion. Jamais. Malin. Voyez, moi, je suis dans l'action, hein, pas comme cet ado au visage sans ossature qui ne sait faire que critiquer. Non, mais plus sérieusement, Juju, elles sont où les solutions, hein, de Greta? Emmanuel Macron, lui, au moins, à chaque problème, il propose une solution. Un réchauffement climatique? Bim, Grenelle de l'environnement. Violence faite aux femmes, bim, Grenelle contre les violences conjugales. Le coup du Grenelle ne marche plus, boum, Grenelle du Grenelle. Action, réaction. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et attaquer cet ado de la banquise sur le fond. Moi, je vous le dis, je suis très mal à l'aise face au discours de Greta Reinmann. Et par discours, j'entends bien sûr son visage. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, sa dernière intervention à l'ONU, Charline, mais son visage est très... très sévère quand même, et ça, moi, ça m'inquiète, je vous le dis.
Non, mais attendez, son discours, ses arguments, vous en pensez quoi?
Le problème, c'est les pommettes, Charline. Surtout la gauche qui remonte un peu plus que la droite, ça crée une angoisse chez les gens qui la regardent.
Oui, mais non, mais le message qu'elle porte, Pablo, sur le fond, vous en pensez quoi?
Et puis cette dent, là, je crois que c'est une incisive qui passe devant l'autre, là, moi, je vous dis, on se dit où va la jeunesse. Tiens, on va lancer d'ailleurs un miramétrie sur le sujet. Question simple pour vous, les auditeurs. Quel monstre se cache derrière le visage de Greta Machin? Réponse 1, un démon nazi. Réponse 2, un minotaure avec une hache enflammée. Donnez-moi vos avis. Je les lirai tout à l'heure aux toilettes. Donc non seulement je trouve cette Greta absolument pas légitime à parler écologie, et le pire c'est que c'est une radicale. Quand je l'écoute, je vous lis, j'ai l'impression d'entendre Daesh, et moi j'ai pas envie de me retrouver à devoir porter un niqab en papier kraft éco-responsable. Et puis dans 3 ans ce sera quoi? Elle fera l'apologie du tofukini sans doute? Non. Qu'on arrête immédiatement avec cette Thunbergisation du monde, surtout que le réchauffement climatique, je suis pas sûr que ça existe, hein. Vous savez, moi je suis comme Saint Thomas, hein, je ne crois que ce qu'on me dit de croire contre une forte somme d'argent. Oui, je parle de Saint Thomas Fabius, évidemment. Car oui, le dérèglement climatique, je l'attends toujours. Moi, j'ai beau chercher, pour moi en France, il y a toujours nos 4 saisons de base qu'on connaît tous. Printemps, été, automne, dépression. Donc qu'on cesse de donner la parole à cette folle dingo qui a tout de l'extrémiste. Est-ce que vous avez vu l'autre jour à l'ONU le regard qu'elle a lancé à Donald Trump? Est-ce que vous l'avez vu? Moi, j'ai vu le regard de la haine, Charline. J'ai vu le regard du technicien de France Inter découvrant sa fiche de paye. C'est très inquiétant et on ne sait pas jusqu'où cette petite trisogole va aller. Surtout qu'elle agit.
La vache.
S'il vous plaît. C'est sérieux.
C'est bien trisogole.
C'est un bon argument.
Il y a des règles.
Ce personnage n'est plus
excuse. Surtout qu'elle est clairement manipulée. Alors par qui? Par quoi? Quelle ONG? Le Mossad, sans doute. Non, soyez sérieux. Mais pour tout vous dire, je fends la carapace, Charline. En fait, je suis triste pour elle. Être si jeune et tomber dans l'extrémisme écologique, quelle tristesse. 16 ans, c'est l'âge de sortir en boîte, de flirter avec les garçons, de porter plainte contre Woody Allen. Les jeunes ne savent plus vivre, Charline. Pour conclure, et je crois que la haine anti-Greta Thunberg, le Terminator de Copenhague, c'est comme le réchauffement climatique, ça ne s'arrêtera que lorsqu'on sera tous morts. Et bonne nouvelle, si on continue à ne pas l'écouter, ça arrivera bientôt.
Merci Pablo Mira Pro Finkelkraut Ferry pour cette belle chronique. Pablo, respirez, vous êtes sur France Inter avec Elliot Lepers qui respire lui aussi autour de cette table.
C'était drôle, hein, pour une fois.
Parlons un petit peu, parlons infection urinaire, constipation, ballonnement, gastro-entérite. Okay. C'est ce qui guette les enfants qui n'osent pas aller aux toilettes parce qu'elles sont souvent dégueulasses dans leurs écoles. Après avoir peur des cabinets, envoie les enfants en droit de ligne dans celui du médecin. Une civilisation dite évoluée peut-elle admettre un tel délabrement de ses latrines? La future génération place ses espoirs dans les Wawa à la japonaise.
T'as vu la lunette? Elle est truffée de capteurs, des détecteurs de présence. Dès qu'un nouvel utilisateur s'assoit, l'ordinateur propose automatiquement de paramétrer tes réglages préférentiels. Température de l'air, de l'eau, puissance du jet, distance d'impact. En fait, tu personnalises ton siège. Et là où c'est génial, c'est que la fois d'après, l'ordinateur, par reconnaissance anale, sait exactement de qui il s'agit. En gros, il reconnaît ton cul.
Marc Lavoine dans Les meilleurs amis du monde, le film de Julien Rambaldi. Nous avons trouvé cet article dans Flush, le magazine qui regarde l'actualité à travers la lunette des toilettes, avec Pascal Légitimus en couverture, et qui a le mérite de poser cette question, qui, je pense, vous ramène à certains souvenirs, ou pour les parents, ramène à la réalité. Au collège et au lycée, Elliot Lepers, s'il ne s'est pas passé une année sans que vous ayez été délégué de classe, est-ce que les chiottes, ça a été un combat que vous avez mené?
Ouais, je pense qu'on en parlait moins à l'époque, mais oui, tout à fait. On avait, c'était les portes étaient cassées, c'était sale, et puis l'absence de poubelle pour les filles, pour pouvoir jeter les protections hygiéniques, tout à fait.
Donc c'est un vrai problème.
Mais si, quand même, c'est majeur.
Bah bien sûr, on est d'accord.
Il n'a pas dit le contraire. C'était l'engueulé.
Non, c'est un vrai sujet.
Est-ce que c'est un enjeu parce qu'on est quand même la 6e puissance mondiale. Est-ce que ça peut se mesurer à l'état de nos latrines?
Non, c'est la France, hein, c'est pas la Belgique.
Non, bah non, oui, d'accord. Parce qu'en Belgique, les toilettes sont plus propres.
Ouais, c'est le problème.
Mais il y en a deux dans tout le pays.
Il y a d'ailleurs une blague, je l'ai dit à Elliot Lepers avant l'antenne, donc j'en fais profiter les auditeurs. En Belgique, on dit je vais à la toilette. En France, on dit je vais aux toilettes. C'est parce qu'en France, il faut en faire plusieurs pour en trouver une de propre. Eh oui.
C'est raciste.
Mais voilà, on voit qu'en Inde, c'est un enjeu, ça fait partie d'une politique globale. En Afrique, il y a un problème aussi avec la promiscuité des petits enfants, des petits garçons et des petites filles. Il faut que, donc c'est quand même un enjeu aussi. Est-ce que ce serait un combat que vous pourriez mener avec le mouvement?
Oui, c'est vrai, tout à fait. On pourrait forcer le ministère de l'Éducation nationale à effectivement rénover les toilettes et proposer des installations qui soient utilisables par tout le monde et qui ne forcent pas tout le monde à se retenir, en fait. Parce que je crois que c'est un enfant sur deux, un écolier qui est sur deux, qui se retient d'aller aux toilettes à cause de l'État.
Et en plus, il faut demander, madame, je vais faire pipi, il faut taper la fiche devant tout le monde. C'est compliqué. On était contents de traiter ce sujet.
C'est plus compliqué à rénover. Oui, avoir la honte devant ses copains, là, c'est.
C'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Elliot Lepers, Juliette Arnaud va vous soumettre au feu roulant de ses questions.
Okay. Oui, c'est le questionnaire de Jupi Proust. C'est un peu de Proust, beaucoup de par Jupiter. Détendez-vous, ça va bien se passer. Okay. Il ne peut rien vous arriver de grave. On y va. Sur une échelle de 1 à 10 de la gauche, à combien vous situez-vous?
De la gauche à quoi?
De 0, c'est vraiment vous n'êtes pas de gauche. 10, oulala, vous êtes Karl Marx.
7,5.
Très bien, sur une échelle de 0 à 10 de la droite, à combien vous situez-vous?
1,5 pour les chemises.
Ok, donc il y a une partie, je ne sais pas.
C'est vrai.
Si vous étiez un slip, vous seriez celui que Sharon Stone ne met pas dans Basic Instinct ou celui que Patrick Bruel ne met pas pour se faire masser?
Un boxeur, du coup, ouais. Parce qu'il faut savoir boxer.
Toujours dans le registre de la vêture, comment vous habilleriez-vous si vous étiez une femme?
Comme maintenant, parce qu'on pourquoi faire une différence?
très bien. Vous venez d'inventer le concept de la comédie musicale politique. Vous l'appelez les parapluies de Hong Kong, les misérables 2.0 ou chantons sous une pluie de pesticides.
Le premier, c'est bien.
Les parapluies de Hong Kong. Vous êtes Patrick Buisson. Quelle personnalité politique mettez-vous sur écoute?
Réfléchissez bien.
Greta Thunberg.
Évidemment. Mauvaise nouvelle, vous êtes encore Patrick Buisson. Quel personnage de fiction mettez-vous sur écoute? Et ne répondez pas Greta Thunberg.
Ça c'est difficile. Pascal Pro.
Ado, Charline avait un poster de François Mitterrand dans sa chambre. Et vous, qui affichiez-vous?
J'avais un drapeau de Johnny Hallyday.
C'est mon Elliot, ça.
Moi, c'était Jean Le Canuet. Hein,
j'ai confondu. Quelle est votre astuce pour éviter l'âge adulte?
Je ne souffle plus mes bougies depuis que j'ai 17 ans.
Et ça marche?
Comme tu vois.
Elle
est une dernière. Si la vieillesse est un naufrage, qu'en est-il de la jeunesse?
Il faut le fuir. La jeunesse est dans la tête. Regarde, moi j'ai bossé avec Eva Jolie puis avec Greta Thunberg, comme quoi.
Pas de différence.
Les deux punks. Ouais.
Merci. Elliot Lepers, merci d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur de l'ONG Le Mouvement. Renseignez-vous pour voir les actions de cette ONG qui s'occupe d'antiracisme, d'écologie, d'antisexisme. Vous avez inventé pas mal de choses comme l'appli 90 jours qu'on vous conseille si vous êtes écolo en transition ou l'Amazon Killer. Il y a aussi votre site internet, Elliot, qui s'appelle getelliot.com. On se dit à demain où nous recevons un autre invité féministe, un humoriste, Laurent Sciamma.
Moi, depuis ce matin, je me fais traiter de gonzesse, j'en fais pas tout un cake.